sur le grill d'Écotable.
Je suis Fanny Gianzetto. Dans ce podcast, je décrypte les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. J'interroge également des personnalités publiques sur leur relation à l'alimentation et aux enjeux environnementaux. Que l'on soit expert, scientifique ou politique, artiste, même simple citoyen, l'alimentation est l'une des clés du changement. Bonne écoute! Je voudrais revenir aux intérêts de la fermentation. Il y a un intérêt en termes de santé, de conservation, de goût.
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres intérêts?
Alors, il y a aussi un intérêt écologique, si je puis dire.
Ouais.
Parce que, déjà, à la base, c'est des aliments anti-gaspillage. Un maraîcher qui a une récolte trop abondante, parce qu'on souvent tout donne en même temps, on n'arrive pas à tout écouler, le surplus, on peut faire fermenter les légumes, puis après on les vend sur l'année, même plusieurs années, ça se conserve vraiment très longtemps. Ensuite, on n'a pas besoin de frigo ni de congélateur, donc on n'a pas besoin d'électricité pour faire fonctionner le frigo et le congélateur, ça se garde à température ambiante. Et ça se garde. Enfin, le mieux, c'est d'avoir une bonne cave. Donc, on n'a absolument pas besoin d'énergie. Et on n'a pas besoin non plus d'énergie pour faire fonctionner un stérilisateur, puisque ça se conserve à température ambiante, comme ça, sans spécialement chauffer ou stériliser. Donc, ça coche pas mal de cases intéressantes dans nos préoccupations actuelles.
Formidable. En termes de goût, qu'est-ce que ça va changer?
Alors, en termes de goût, ça va, ça change le goût, ça va augmenter la palette aromatique. Parce que, par exemple, si je prends un exemple, la vanille artificielle, la vanilline, c'est une substance aromatique. La vanille naturelle qui est fermentée, c'est pour ça que je parle de ça,
toujours
parce que c'est toujours fermenté. La vanille naturelle, elle contient plusieurs centaines de composés aromatiques différents.
Oui.
Donc, c'est pour ça que la saveur de la vanille naturelle, elle est beaucoup plus ample, c'est riche, c'est vraiment intéressant. On reconnaît très bien le goût, la différence entre le goût de la vanille artificielle et de la vanille naturelle.
Oui, c'est le même exemple que vous avez donné tout à l'heure avec le vin
avec
et le jus de raisin.
Voilà, c'est ça.
Ok, en termes de santé, quel est l'intérêt?
Alors,
quels sont les intérêts?
Alors, les intérêts, c'est que ça va augmenter, ça va améliorer les propriétés nutritionnelles des aliments. Ce sont des aliments hyper concentrés, en fait, parce qu'il y a plus de vitamines que dans le même produit à l'état frais. Il y a, donc, comme je l'expliquais, c'était aussi, au point de vue des acides aminés, enfin, du tout, l'acide lactique, par exemple. C'est aussi, ça agit aussi comme un désinfectant, si je puis dire. Alors, déjà, l'aliment lui-même, il est sain bactériologiquement, puisque les bactéries, les bonnes bactéries, elles ont déjà zigouillé les mauvaises au départ. Donc, il ne reste plus que les bactéries intéressantes. Et en plus, quand cet acide lactique va arriver dans notre corps, à l'intérieur de notre système digestif, il va aussi nous désinfecter les intestins, le système digestif. Donc, c'est très bon pour les personnes qui ont des problèmes digestifs ou des problèmes intestinaux.
Est-ce que ça veut dire que on devrait tous en manger de façon assez régulière, en fait?
On devrait tous en manger de façon assez régulière. Et d'ailleurs, dans les pays où c'est encore très populaire, on en mange des petites quantités, mais tous les jours. Et pratiquement à tous les repas.
Du type le kimchi.
Du type le kimchi ou au Japon, les tsukemono, c'est des petits légumes fermentés qu'on met sur la table, vous voyez, puis tout le monde pioche dedans
au cours du
repas. En Europe de l'Est aussi, c'est encore très populaire. On fait des bocaux nous on appellerait ça des pickles, vous voyez, des petits légumes comme ça. Et sur la table, à tous les repas, il y en a et on peut en manger. Et les gens adorent ça et on en mange en fait toute la journée à tous les repas.
Et à l'inverse, il y a certains produits fermentés qui aujourd'hui sont plus décriés. Je pense au pain qui reste fermenté, mais pourtant l'aspect nutritionnel est contesté.
Le pain, il est décrié parce que malheureusement les boulangers n'ont pas fait tellement attention. C'est depuis les années 50, il y a eu une détérioration de la qualité du pain, de la qualité de la farine, parce que les farines, on cherche le rendement, on cherche
la facilité,
on cherche aussi ce qu'on appelle la force boulangère de la farine. Donc c'est des farines qui sont très très fortes en gluten pour que le pain soit plus volumineux, qu'on puisse le vendre plus cher, etc. Mais il existe quand même des boulangers qui font attention à ça, qui choisissent des farines paysannes, des bonnes farines qui n'ont pas été boostées comme ça font des croisements génétiques pour
booster
la farine. Enfin, c'est voilà. Mais si on choisit bien son boulanger, on peut. Le pain, c'est quand même un excellent aliment. Ça a été la base de l'alimentation en Europe pendant des siècles.
Oui, c'est bien de le rappeler pour ceux que ça intéresse. On a interviewé deux boulangers, le fondateur de Pané Vivo qui utilise des farines anciennes et du levain, et aussi le fondateur de la Fermentation Générale, qui ne fait pas que du pain, mais qui fait aussi du pain.
Valentin
Orjas, qui est passionnant aussi.